Avant de parler du dossier des Premières Nations, là, je pense que le docteur Arruda est fatigué, puis ça pourrait se comprendre. Là. Oui. Écoute, il fait des journées de fou depuis le printemps. Là. Mais disons que hier, là, il n'a pas aidé à la clarté.
Non, dans son point de presse.
Oui.
Oui,
ouais.
Ouais, puis sa décision de participer à cet événement-là.
Organisé par Réseau, qui était un événement privé au début, là, mais là, qui est devenu ouvert.
Oui, puis qui était payant au début, puis là, qui ne le serait plus. Là, apparemment, Arruda aurait annulé sa présence.
C'est ce que j'ai vu.
Bon, mais juste le fait d'accepter de participer à un événement comme celui-là, payant en plus, je veux dire, tout de suite, ta réaction, c'est il y a le temps. Il y a le temps de participer à ce genre d'événement. Je sais pas.
Je comprends que tout peut pas se dire simplement, mais on a ajouté à la confusion hier. Écoute, là, sur les rassemblements extérieurs, je te jure, là, si quelqu'un comprend, là, on voit le principe général, là. Tu sais, pas de contact avec les autres le plus possible, à part la famille,
dans la bulle.
Ça, on le comprend, là. Mm. Mais quand il commence à répondre à des questions sur les rassemblements extérieurs, eh boy.
Ouais. Mais sa décision de participer à cet événement-là, pour moi, c'est très bizarre, Paul. Puis je me dis, tu sais, il y a quelque chose comme une erreur de jugement là-dedans. Là. Tu te dis, ben voyons, Horacio, si tu as le temps de participer à des événements comme ça, là, va te coucher, va faire une sieste, va te reposer. Tu sais, c'est pas prioritaire, il me semble, dans ta gestion de crise. Il veut-tu être juste trop gentil, trop accessible? Y a-tu quelqu'un dans son entourage qui le conseille, vers qui il peut se tourner et dire « Penses-tu que c'est une bonne idée d'aller là? » Non, Horacio, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Alors, je sais pas. Il y a peut-être besoin de repos. Puis comme tu le dis, ce serait normal qu'il soit fatigué. Mais à ce moment-là, va prendre un break. Là.
Ouais.
Prends un petit break.
Bon, maintenant, M. Legault va rencontrer ce matin le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Justin Picard.
Oui, c'est ça. Alors, évidemment, c'est dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan. Donc, ça va se passer en présentiel. Donc, Ghislain Picard rencontre le PM à ses bureaux. C'est une rencontre qui est fermée, Paul, mais comme le premier ministre va tenir un cinquième point de presse cette semaine à 13h pour annoncer les mesures d'aide à la culture, c'est évident qu'il va être questionné sur sa rencontre avec le chef Picard. Moi, je sais pas pour toi, Paul, mais moi, je suis encore hanté par les hurlements de Joyce Echaquan. Je te le dis, là.
Ah non, mais il n'y a pas de mots pour décrire ça.
J'y pense, là, puis non, mais j'entends les sons, là. J'entends ces cris, là, qui sont comme restés pris, là, dans ma tête, là. Et puis, tu sais, il y a les cris, il y a évidemment les propos très humiliants puis très déshumanisants des deux soignantes. Et je me pose la question, Paul, est-ce qu'il est possible que la mort de Joyce Echaquan devienne un moment charnière dans les relations avec les Premières Nations puis dans le long processus de réconciliation qu'il va falloir amorcer à un moment donné. Moi, pour ma part, je te l'ai déjà dit, j'ai toujours rejeté le concept de racisme systémique parce que j'ai la ferme conviction qu'il n'y en a pas de système raciste au Québec, parce que pour moi, un système raciste, ça suppose que l'État est raciste, qu'il y a des lois racistes, qui institue une hiérarchie des races, qui affirme la supériorité de certains groupes par rapport à d'autres. J'ai toujours rejeté ça. Cela étant, les événements de Joliette sont tellement choquants puis tellement bouleversants que ça nous oblige, je pense, à faire un examen de conscience. Se pourrait-il que de tels comportements, comme ceux qu'on a entendus dans les moments qui précèdent la mort de Joyce Echaquan, les propos qui sont tenus, se pourrait-il que ça se produise à répétition dans plusieurs établissements de santé au Québec, Paul? Et la commission vient, s'est justement posée cette question-là, la commission vient sur les relations avec les Autochtones, et la commission en est venue à la conclusion que oui. Et la commission donne des exemples, plusieurs exemples, donc, d'hôpitaux où les Autochtones ont été traités avec mépris et où leurs droits ont été bafoués. Leurs droits, notamment, le respect de leur tradition culturelle, par exemple, leur rapport aux morts. Bon. Alors, si ce qu'on a entendu dans la chambre d'hôpital de Joyce Echaquan est un phénomène récurrent qui se produit fréquemment dans des établissements de santé du Québec, si ces comportements-là relèvent de l'ordinaire, Paul, alors on n'est plus en présence d'un phénomène isolé, on est face à un « pattern ». Et là, je te pose la question, est-ce qu'il faut parler à ce moment-là de discrimination institutionnelle? Parce que ça se passe dans nos institutions de santé au Québec et dans plusieurs institutions, d'après ce qu'a documenté la commission vient.
Tu comprends, les propos tenus là, par l'infirmière puis la préposée qui a été virée, la deuxième employée.
Oui, c'est ça.
Bon, ben ça s'appelle des préjugés racistes à l'égard d'une clientèle. Puis là, on parle d'Autochtones, mais on pourrait parler de d'autres groupes. Puis, tu sais, souvent, des gens plus vulnérables. Puis quand tu es à l'hôpital, tu es assez vulnérable.
Oui.
Ben tu peux faire l'objet de maltraitance verbale, physique.
Oui.
Et là, ça ajoute la dimension autochtone. Puis je ne sais pas s'il y a un problème particulier à l'hôpital de Joliette, là, le centre de la Naudière.
En tout cas, il semble que c'est arrivé souvent.
En tout cas, une gestion des cas, pas toujours avec beaucoup de doigté puis beaucoup de délicatesse.
Oui, puis les Atikameks ont dit que c'était arrivé souvent, puis que c'était arrivé à leurs parents, puis que c'était arrivé à leurs grands-parents. La raison pour laquelle je pose cette question-là, Paul, c'est si on n'est pas capable de... Tu sais, si le concept de racisme systémique ne nous permet pas de faire ce débat-là puis d'amorcer une réelle réconciliation avec les Premières Nations, trouvons-en un autre. Si c'est pas discrimination institutionnelle, trouvons-en un autre. La langue française est assez riche, puis je pense qu'on n'est pas prisonnier. Notre démocratie, la démocratie québécoise n'est pas prisonnière de concepts qui sont importés d'ailleurs ou qui sont utilisés pour essayer de beurrer les Québécois là, comme une bande de racistes, puis la société québécoise comme une société raciste. Si le concept de racisme systémique ne peut pas être utilisé ou ne fait pas consensus, ben créons un autre concept qui va nous servir dans nos débats politiques puis qui va nous permettre de faire avancer cette discussion-là, cette conversation-là avec les Premières Nations. Parce que, honnêtement, tu as raison de dire, il n'y a pas juste les Premières Nations, mais les Premières Nations sont dans une catégorie à part, Paul, à cause de la loi sur les Indiens.
Non, ça,
la loi
sûr,
sur
là.
Les Indiens, c'est que... une loi raciste. C'est une loi ségrégationniste qui a créé les réserves. Donc, moi, je pense que, dans le cas des Premières Nations, de par leur histoire... De par toute l'histoire autour des pensionnats, la loi sur les Indiens, c'était une loi qui visait l'assimilation, qui visait ultimement la disparition de ces peuples-là. Alors, moi, honnêtement, je pense qu'il faut trouver une manière de nommer les choses et puis d'amorcer ce processus de guérison-là qui est nécessaire. Moi, je suis rendu là, puis je pense que ce qui s'est passé avec Joyce et Chacoan... Écoute, Paul, c'est...
Mais non, mais c'était épouvantable.
Ça a pas de bon
sens. Il y a un volet criminel dont on n'est pas encore certain, là.
Tu sais, il y a comme une espèce de banalité révoltante là-dedans.
La ministre d'Amour n'était pas très convaincante non plus hier.
Elle a essayé de faire de la politique partisane.
C'était pas fort, ça?
Non, c'était pas fort.
En passant, comprends-tu ça, tous les libéraux aient voté contre la motion voulant que le fédéral s'excuse pour la crise d'octobre, pour les gens qui ont été emprisonnés, là?
Non, je la comprends pas.
On a demandé une entrevue ce matin avec Dominique Anglade. Non.
La seule explication, là, c'est une explication, ça vaut ce que ça vaut. Je me dis, y a-tu eu des discussions entre les libéraux fédéraux et les libéraux à Québec? Parce que t'as vu que Trudeau a pas voulu aller là non plus. Il a pas fermé la porte complètement non plus, mais je veux dire...
Non, mais le fédéral, ça peut toujours se défendre, là. Mais,
ouais, mais tu te dis, c'est quoi le problème? Pourquoi Dominique Anglade ne veut pas aller là? Y a-tu des membres de son caucus qui veulent pas aller là, puis c'est ce qui l'a empêché de donner son appui?
Je ne sais pas. On a voulu lui poser des questions, ça a été non.
Tu sais, ça fait 50 ans. Ils ont quoi? Ils ont peur que Bourassa, qui était le premier ministre, qui avait demandé l'armée, ils ont peur de quoi? Que ça entache l'héritage de Robert Bourassa? C'est tout ça le problème? Je ne sais pas.
Un petit mot sur le prolongement du REM vers l'Est, là.
Bon, alors, autre rencontre aujourd'hui. Celle-là est à 14h. C'est une rencontre virtuelle, mais une rencontre très importante entre les ministres Bonnardel et Rouleau du gouvernement Legault et la mairesse Valérie Plante. Cette rencontre-là doit porter sur le projet de prolongement du REM vers l'Est. Bon, parce que le gouvernement Legault veut vraiment aller de l'avant avec ça. Très bien, très bien. Mm-hmm. Mais je vais dire, l'inquiétude de Valérie Plante ces temps-ci puis de son entourage, c'est le projet du prolongement de la ligne bleue. Puis je vais dire une affaire, c'est une méchante patate chaude. À Québec, là, je te le dis, Paul, ce que j'entends à Québec, ce que je sens, là, c'est qu'ils Ils voient pas comment ils pourraient aller de l'avant avec 5 stations qui vont nous coûter 1 milliard chacune. Et puis, je te le dis, au caucus, je suis certain qu'il doit y avoir des députés des régions qui disent « Hey, sacrifice, vous allez pas mettre 1 milliard par station à Montréal alors que nous autres, on manque d'argent pour nos systèmes de transport en commun puis pour nos initiatives de transport collectif. » Alors, il va falloir à un moment donné qu'on sache ce qui se passe avec ce projet-là, Paul. Je te le dis, à Québec, moi, ce que je sens, c'est qu'ils n'iront pas de l'avant. Fait que là, il faut trouver une manière de diminuer les coûts de ce projet-là si on veut que ça se réalise. Je sais que ça brette depuis 40 ans, mais Paul, si on est à 4,5 milliards pour 5 stations, alors que la construction n'a même pas commencé, on s'entend-tu qu'on va se rendre au moins à 5 milliards d'ici le début de la construction, puis on va finir à combien? Fait que dans des circonstances comme celle-là, il faut trouver des manières de diminuer les coûts. À Montréal, ils me disent 1 milliard par station, c'est ce que ça coûte. Si tu additionnes les coûts de financement, puis les coûts de contingence, puis tout, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Mais écoute, là, 1 milliard par station, Paul, 1 milliard par station, ça commence à faire pas mal d'argent.
Bonne fin de semaine, monsieur.
Toi aussi.
7h12, la 15.